Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Elle est depuis quelques mois la présidente de Sanofi France et elle a déjà imprimé sa marque avec, entre autres, l'engagement sociétal de son entreprise dans les Jeux Olympiques de 2024. Audrey Dervelois est ma première invitée. C'est une association indépendante qui fédère plus de 500 entrepreneurs de l'innovation dans la santé et qui est aussi un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. C'est France Biotech et Franck Mouton, son président, et Chloé Evans, adjointe au directeur général, qui nous présentent leurs actions pour aider les start-up et PME de cette filière. Enfin, un salon qui devient incontournable autour de l'innovation et des nouvelles technologies de santé et qui a la particularité d'être ouvert au grand public. C'est Made in Tech et sa présidente fondatrice Muriel Benita nous y invite les 13 et 14 mars. Check-up santé, c'est parti. Audrey Dervelois, bonjour.
Bonjour Fabien.
Et merci de venir sur notre plateau. Vous êtes médecin, docteur en médecine à la base. Vous avez sévi quelques années au centre de recherche Pasteur de l'université de Hong Kong. Vous êtes passé ensuite chez Pfizer et ensuite chez Novartis. Vous avez resté quelques années. Vous avez dirigé même la filiale irlandaise. Oui. Voilà. Et vous êtes aussi, d'ailleurs, la présidente. J'ai raccourci votre CV parce que sinon il y en avait pour deux heures. Et vous êtes aussi la présidente de la Fédération des industries de santé, le FEFIS. On peut dire que le monde de l'industrie pharma, vous le connaissez, évidemment américain, labo suisse, et maintenant retour à la maison avec un labo français. Donc Sanofi, c'est en même temps une entreprise française, une entreprise européenne, une entreprise mondiale.
Exactement. En fait, un grand leader pharmaceutique avec une forte implantation française, puisqu'on a 20 000 collaborateurs en France sur nos 90 000 collaborateurs dans le monde. Forte empreinte française parce que c'est 28 sites, dont 16 sites industriels, 4 centres de R&D, 4 centres aussi de distribution. Et donc, on a 430 médicaments, vaccins et produits de santé distribués donc dans le monde. Et on est ravis en France de produire 40% de la production mondiale.
Donc, on sait que Sanofi, c'est plein de spécialités, évidemment, la plupart d'ailleurs, mais aussi plutôt qui se ressentent vers des spécialités comme l'oncologie, par exemple.
Oui, et en fait, on est présent en oncologie, mais pas que, parce que une des spécificités justement de Sanofi, c'est à la fois d'être présent pour les besoins essentiels des Français, donc des produits qu'on appelle plus matures, mais également d'être extrêmement innovant et notamment aussi en immunologie.
Alors, c'est vrai que la fonction première d'un laboratoire pharmaceutique, c'est de fabriquer des médicaments et puis de les distribuer, mais pas que, finalement. Donc, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique a un petit peu changé sa façon, un petit peu selon sa philosophie. Elle s'adresse un peu plus, peut-être, directement aux patients. Qui reste incontournable, qui reste au centre, d'ailleurs.
Le patient est au cœur de tout ce qu'on fait, de toutes nos activités. Alors, ce qu'on veut également, et c'est vraiment l'ADN de Sanofi, et c'est ce que j'observe moi depuis 6 mois, c'est l'engagement des collaborateurs pour la société. Donc, c'est aller au-delà du médicament, mais aussi de créer un impact et un engagement sociétal. Donc, d'apporter aussi des services pour les patients et les aidants.
Alors, parmi justement vos engagements sociétaux, il y a celui de Sanofi dans les Jeux Olympiques de 2024.
Alors oui,
ça
peut surprendre, mais on en est extrêmement fiers. En fait, quand l'opportunité est arrivée, on s'est dit vraiment, nous, la maison mère, et en France, et c'est une occasion unique qui arrive une fois tous les 100 ans d'avoir cette opportunité. Donc on a vraiment voulu la saisir avec un axe qui est un peu particulier en tant que sponsor, c'est vraiment de l'accès pour fédérer nos collaborateurs. Au-delà, bien évidemment, de l'activité physique qui a un impact positif pour la santé, mais c'est vraiment nous, autour de nos collaborateurs.
Qui pourrait aussi être volontaire pendant ces Jeux Olympiques ou pas, non ?
Alors, exactement. En fait, c'est en tout cas un des grands actes sur comment on va contribuer. Sanofi va permettre à ses collaborateurs de participer en étant volontaire. Donc, on sera l'entreprise qui va amener le plus de collaborateurs. Et on a été même nous-mêmes surpris par l'engouement. On a eu plus de 11 000 collaborateurs qui ont levé la main pour être présents. Donc, on en aura un peu moins, mais en tout cas, on en aura un nombre très significatif.
Bon, donc, c'est vrai que le sport et la santé sont plein de choses en commun.
En fait, on voit beaucoup de similitudes entre les sportifs, l'excellence, la résilience aussi, parce qu'on sait qu'il y a des succès, mais il y a aussi des échecs. Et on sait qu'on a beaucoup à apprendre, nous, de ces sportifs, pendant cet événement. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. On va apprendre d'eux. Et puis aussi, on veut pousser des causes, en fait, des vrais enjeux de santé publique. Et on va notamment travailler avec des athlètes autour de ça.
Alors justement, c'est ça, c'est le concret, c'est ça, c'est de travailler directement avec des athlètes aussi bien valides que handicapés.
Alors ça, c'était très important pour nous quand je parle finalement d'enjeux de santé publique et puis des enjeux pour la société aujourd'hui, c'est autour de la diversité et l'inclusion. Donc on a constitué, pour la première fois, Sanofi a constitué une team, donc une team Sanofi. On a 14 athlètes, des talents, et on a donc 10 athlètes qui vont faire les JO, mais c'est aussi les Jeux paralympiques, donc c'est vraiment aussi de soutenir des athlètes en situation de handicap. Et on en a notamment 3, qui ont été atteints malheureusement de méningite et on sait qu'aujourd'hui on a une recrudescence de cas, donc ça nous permet aussi de porter en fait leur voix parce qu'ils ont chacun en fait une histoire personnelle, ils ont chacun une conviction et on veut les aider à les porter ces sujets-là. Il y a d'autres sujets autour de des droits de la femme, des droits de LGBT, il y a la lutte contre le racisme, ils ont vraiment été choisis à la fois sur leur diversité, encore une fois, il y a aussi à peu près 50% de l'équipe en situation de handicap, mais pour des causes qui nous sont très chères.
Alors, vos engagements se poursuivent aussi plus généralement auprès des jeunes.
Oui, alors c'est notamment dans cette équipe, on a notamment Danny qui est un dance breaker et du coup lui il est vraiment là-dedans, aller pousser les jeunes jusqu'au bout de leurs limites. Et en fait nous on s'est dit c'est vraiment très proche de ce qu'on fait au quotidien puisqu'on travaille avec Place d'Avenir pour notamment aider via le sport à l'insertion professionnelle. On travaille aussi dans les quartiers prioritaires, notamment pour encourager l'alternance au sein de notre entreprise. Donc voilà, ça fait partie de notre engagement quotidien, mais on prend l'axe des Jeux Olympiques et Paralympiques pour vraiment accélérer, en tout cas sur ces courses.
Alors, vous avez pris le relais de Sanofi depuis quelques mois. Donc, quelle est votre quelle marque vous allez imprimer ? Quelle est votre feuille de route ?
Alors, notre feuille de route pour cette année, elle est notamment sur la France, en fait, pour répondre à des enjeux de santé publique en France. Alors, tout le monde a en tête l'hiver difficile qu'il y a eu, notamment à l'hôpital. Et on se dit, qu'est-ce que nous, on peut apporter ? Comment on peut contribuer pour éviter ça ? Et donc, on anticipe, on travaille avec les autorités pour éviter un hiver difficile avec la triple épidémie qu'on a vue de bronchiolite, de Covid et de grippe. Donc, notamment, Sanofi en France, c'est de l'innovation scientifique, mais une prouesse aussi industrielle. Donc, on a notamment, on travaille avec les autorités sur une solution extrêmement innovante pour les nouveau-nés et les nourrissons, pour les protéger contre cette bronchiolite. Donc, ça, on espère être prêt en collaboration, encore une fois, avec les autorités pour l'hiver prochain. On a également le vaccin grippe, et avec aussi une forme hautement dosée pour les patients plus âgés, plus de 65 ans. Donc là, pareil, d'amener des solutions pour les patients. Et puis, prouesse industrielle, je cite ça parce que on a bien vu un sujet qui malheureusement revient un peu plus dans l'actualité sur les pénuries et les tensions de médicaments. Donc on met tout l'outil industriel vraiment au maximum de sa capacité, et on a été extrêmement fiers avec le site de Lisieux, mais aussi à Compiègne, de pouvoir délivrer sur l'année 2022 plus de 424 millions de boîtes. Ça n'a jamais été fait depuis le lancement du paracétamol, donc en France, 1964. Donc oui, on est très fiers.
Alors, c'est vrai que là aussi, vos actions, c'est aussi autour de pas mal de collaborations, tous azimuts. Vous collaborez avec, on a dit, les institutions, les pouvoirs publics. Vous collaborez aussi avec des start-up. Vous collaborez beaucoup avec des entreprises innovantes.
C'est très important. En fait, on est convaincus que pour aller plus vite, il faut collaborer et différemment. Donc, on a notamment l'Institut, Future for Care. Donc, c'est un incubateur à start-up dans la santé. On est avec d'autres grandes sociétés où là, on les accompagne, mais aussi sur des partenariats publics-privés. Et on a notamment fait le lancement avec 4 ministres très récemment d'un biocluster en oncologie où on espère créer un nouveau modèle de recherche, attirer des talents, faire venir des start-up aussi et créer un nouveau écosystème plus dynamique, plus rapide, parce qu'il y a des patients qui attendent.
On vous soutient et on attend de voir ce que vous allez faire. Sûrement quelque chose de bien. Merci beaucoup. On va accueillir à présent Franck Mouton et Chloé Vance de France Biotech.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Chloé Vance, bonjour.
Bonjour.
Franck Mouton, bonjour.
Bonjour Fabien.
Vous êtes un habitué de Check-up Santé.
Merci.
Vous avez le badge pour entrer directement?
Oui, directement.
Génial. Alors Franck, vous êtes chercheur au CEA, vous êtes patron de Terra Nexus. On dit Terra Nexus ou Terra Nexus?
Terra Nexus.
Terra Nexus. Et vous êtes président évidemment de France Biotech, qui est dans sa 26e année, qui est... C'est bien d'accord, non?
C'est ça, on a fêté nos 25 ans l'an dernier, donc on rentre dans notre 26e année.
Donc Chloé Vance, vous êtes adjointe à la direction générale de France Biotech. Franck, France Biotech, c'est une association, une fédération, un réseau, une vitrine?
Oui, c'est tout ça.
C'est tout ça en même temps?
Donc non, c'est une association professionnelle, indépendante, qui fédère les entrepreneurs de la health tech au sens large, biotech, medtech, numérique en santé, avec la vocation double de pouvoir fournir à nos entrepreneurs toutes les informations qui vont avoir un impact sur leur développement, la fiscalité, le market access, l'export.
Quand tu dis entrepreneurs, c'est peut-être les petites, les grands,
exactement.
Les startups.
Plutôt profil effectivement startup, PME, jeune entrepreneur, avec un réseau d'entrepreneurs aguerris qui viennent justement en pair entourer ce secteur. Donc la vocation, c'est de permettre à nos entrepreneurs de bénéficier de toutes les informations qui auraient de l'impact sur leur développement, d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur le fait que cet environnement gagne en compétitivité, en attractivité sur ce secteur-là. Où on voit qu'aujourd'hui, et Chloé le décrira, mais plus de 4000 produits en développement sur le territoire français, des produits qui vont à la fois résoudre des problèmes de santé publique, apporter, soulager le système de santé d'un point de vue organisationnel, et tout ça en fait est effectivement fédéré par l'organisation de France Biotech sur la partie
entrepreneuriale.
Combien
de membres, France Biotech?
On a plus de 500 membres aujourd'hui.
Plus de 500, d'accord. Et vous êtes évidemment une association indépendante, mais vous avez quand même certains poids vis-à-vis des pouvoirs publics?
Parce qu'on est représentatif, parce que maintenant depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont extrêmement attentifs au domaine de l'entrepreneuriat en santé, avec deux enjeux, un enjeu économique et un enjeu sanitaire. On l'a vu pendant la crise sanitaire, ça s'est révélé, mais là, pendant toute cette période-là, ça s'est considérablement accentué, et ça a donné lieu justement à des décisions du président de la République de mettre le plan innovation santé France 2030 en place. Et d'ailleurs, France Biotech fait partie des personnalités qualifiées au sein du comité de suivi du plan Innovation Santé France 2030.
Alors, Chloé Vance, donc vous avez participé largement à la sortie de ce 20e panorama Health Tech 2022. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et les différentes tendances. Alors, d'abord, le constat.
Oui, le constat. Donc, c'est une étude qu'on mène chaque année. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un suivi dans le temps de principaux indicateurs et de pouvoir suivre un peu les tendances du secteur. Le premier constat, je dirais, c'est que c'est quand même une filière très dynamique et très diversifiée en termes d'entreprises, en termes de produits qui sont aujourd'hui en développement. Donc on compte aujourd'hui plus de 2600 sociétés de health tech françaises, PME, dont 800 sociétés de biotech. Donc ça représente, on a multiplié par 3 par rapport à il y a 20 ans. On a également un très fort et très dense tissu de medtech, donc des sociétés qui développent des dispositifs médicaux. Et on a aussi l'émergence de la santé numérique, donc de plus en plus de sociétés qui sont positionnées sur le développement de logiciels, sur le développement de solutions, à la fois pour l'hôpital, pour les patients. Et donc ça aussi, c'est une tendance qu'on peut voir. On a multiplié par 2 le nombre d'entreprises, donc on est à 400 sociétés de santé numérique aujourd'hui.
D'accord, donc c'est un chiffre d'affaires qui progresse d'année en année?
C'est un chiffre d'affaires, on a vu une progression entre 2020 et 2021, on a eu plus de 30% de progression sur le chiffre d'affaires de la filière. On a également des sociétés... Oui, c'est ça, tout à fait. Mm-hmm. Et on se concentre sur vraiment un panel d'entreprises, donc c'est vrai que si on extrapole sur la filière dans son ensemble, on est encore à plus que ça. C'est une filière qui représente plus de 50 000 emplois aujourd'hui, directs et indirects. On a également remarqué que c'est une filière qui a tendance aussi à acquérir une certaine maturité aujourd'hui, puisqu'on voit que les entreprises sont de plus en plus présentes à l'international. Il y en a de plus en plus qui atteignent aujourd'hui le stade de commercialisation. Et c'est particulièrement vrai pour toutes celles qui développent des dispositifs médicaux et qui sont sur des solutions de santé numérique. On a les 3/4 déjà qui sont présentes sur les marchés et qui ont des stratégies vraiment d'adresser l'international d'emblée, en fait, dès le début du lancement de leurs produits. Donc ça, c'est vraiment une tendance forte. On a également aussi des entreprises qui se rapprochent de plus en plus du statut d'ETI. donc qui ont plus de 100 employés, même si on a une très forte création d'entreprises avec un très fort tissu de sociétés de petite taille, on voit qu'il y en a de plus en plus qui arrivent à une certaine maturité. Et qui acquiert voilà, cette dimension plus importante aujourd'hui.
Alors justement, Franck Mouton, on avait tendance à dire qu'en France, on était bon pour l'amorçage, un peu moins bon pour le suivi. On a l'impression que la tendance s'inverse.
Alors,
avec France Biotech ou Grasse.
Non. Il y a eu beaucoup d'efforts collectifs pour arriver à cela. Alors, on a eu une année 2022 qui était, dans tout le domaine de la tech, qui était plutôt en repli d'activité de la part des investisseurs privés dans le monde entier. Et la France s'en sort très bien. On a une vraie résilience là-dessus quand on regarde les chiffres. En revanche, moins de nombre d'investissements, mais des investissements beaucoup plus intenses en capitaux. Donc des quantités d'argent qui ont été réellement injectées dans un certain nombre de projets, mais
pour le développement, pour le suivi, pour l'internationalisation.
Oui. Exactement, sur des stades sur des stades de développement qui sont un peu plus avancés. Ça veut dire quand même que pendant cette période-là et l'année 2023 s'annonce dans la même tendance, tout ce qui est phase précoce, amorçage, seed, etc., est quand même un domaine qui est très en souffrance aujourd'hui. Donc on peut se féliciter de la première place et du fait que la France a résisté pendant cette période-là dans sa capacité à attirer les capitaux, et notamment les capitaux internationaux.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une vraie réussite. Deux aspects là-dessus. Le premier, c'est que on sait très bien que si on arrive à faire quelques champions sur le territoire, ça va attirer d'autres capitaux pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on peut quand même se féliciter du fait que ces capitaux aient été concentrés sur un certain nombre d'acteurs qui, on l'espère, vont être des champions internationaux basés sur le territoire français. L'autre aspect, c'est qu'on a quand même mis en place, et ça, on peut s'en féliciter d'un point de vue collectif, plusieurs aspects. Un, TIBI, donc le dispositif TIBI, qui avait pour vocation justement de financer les étapes de start-up à scale-up, et donc cette étape précisément de passage de maturité. Et là, les fonds TIBI ont permis justement d'apporter un certain nombre de capitaux dans ces entreprises-là. Deux, la PPI avec le plan France 2030, où là, effectivement, on a eu beaucoup de soutien, que ce soit en subventions, en avances remboursables et en capitaux. 1 milliard a été injecté sur le territoire français à travers ces dispositifs-là. Et enfin, la BEI, la Banque d'investissement européenne, qui, justement, est venue aussi apporter ce système-là. Donc, tout ça réuni fait qu'effectivement, on est dans une dimension de résilience assez remarquable pour l'année 2022.
Chloé, très rapidement, est-ce que vous avez senti que les boîtes étaient impactées par la crise actuelle, la crise énergétique, l'inflation, la guerre ? Très rapidement.
Alors, on a senti qu'il y avait certaines entreprises, en effet, qui étaient un peu plus préoccupées par ces sujets. Néanmoins, dans l'ensemble, on voit que la filière quand même dispose d'une très forte vitalité. On l'a vu à travers les intentions de recrutement, notamment. On a vu qu'il y avait 86% des sociétés qui allaient recruter sur 2023, avec certaines difficultés pour certaines de trouver les bons profils. Donc il y a vraiment un besoin aussi de pouvoir d'attractivité des talents et sur certaines fonctions en particulier. Et après, c'est vrai que donc en fonction voilà de la maturité des entreprises, ces préoccupations sont plus ou moins ressenties. On a évidemment le financement qui arrive en première préoccupation des entrepreneurs. Le recrutement est arrivé aussi dans le top 5, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc on voit que ça, c'est une nouvelle préoccupation. Et puis, en effet, quelques incertitudes par rapport à l'avenir. Mais dans l'ensemble, on voit quand même que la filière se porte bien et qu'il y a une croissance qui est témoignée.
Eh bien, merci Chloé Vince, merci Franck Mouton.
Merci beaucoup. Merci.
Vous revenez quand vous voulez. D'ailleurs, vous avez l'habitude. Hein, vous avez pris l'habitude. On va à présent accueillir Muriel Benita, qui est présidente fondatrice de Bedintex.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Muriel Benita, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, vous êtes la présidente et la cofondatrice du salon Bedintex, dont c'est la deuxième édition. Pourquoi au départ, si c'est la deuxième, il y a eu une première ? Pourquoi la première ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer un salon qui avait l'air au départ atypique ?
Exact, et qui reste atypique. On reste un salon inédit d'innovation en santé, puisque nous, en fait, nous sommes partis d'un constat, c'est que beaucoup innovent, c'est bien d'innover, mais il faut le faire savoir, et avec le plus grand nombre. Et c'est compliqué de le faire savoir, et à le faire savoir à qui ? Eh bien, à ceux qui vont être les bénéficiaires de cette innovation en santé. Ça veut dire à la fois l'écosystème de la santé, et à la fois le grand public. Et donc, c'est la raison pour laquelle...
C'est ce qui vous différencie un petit peu des autres salons, c'est que c'est ouvert au grand public.
C'est
il y a pas beaucoup de salons en santé qui sont ouverts au grand public.
Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un pari que nous avons fait dès la première année. On s'est dit que finalement, finalement la santé, c'est un sujet tellement sérieux qu'on ne peut pas le laisser au seul médecin. Vous en conviendrez,
non,
de ce fait.
Si vous parlez au médecin, là, non. Oui.
Et donc, du coup, on a souhaité pouvoir montrer que nous pouvions être dans cette nouvelle étape pour la santé, qui est de dire que professionnels de la santé et grand public doivent pouvoir communiquer entre eux, découvrir ensemble cette innovation en santé. Donc, on amène aux professionnels de la santé et que nous amenons au grand public qui vient découvrir et donc adopter les nouveaux usages liés à cette santé innovante.
Alors, avant de parler de la deuxième édition, un petit bilan quand même, un retour sur la première.
Oui, c'était un pari un peu original.
Un gros challenge quand même, un gros défi, oui.
Un très gros challenge. On y a cru, parce qu'on croyait à la transformation de la santé. On croyait.
Vous avez d'ailleurs obtenu le parrainage de la présidence de la République.
Cette année, en 2023, nous sommes sous le haut patronage du président de la République. Nous aurons d'ailleurs le ministre François Braun aussi, qui sera présent en inauguration de Made in Tech. Ce sera tout le tour de Made in Tech, il y a beaucoup à voir. Et puis alors pour ce bilan, on peut revenir rapidement là-dessus, 6000 visiteurs dès la première année, 57% de grand public, 43% de professionnels de la santé, donc pari réussi. Avec,
donc les professionnels de santé sont venus aussi.
Un grand nombre, et on le voit encore plus cette année. Formidable.
Alors justement, donc le salon a lieu très bientôt, c'est le 13 et 14 mars, et d'ailleurs Check-up Santé y sera présent. On va essayer, ce qui fait que vous aurez trois fois plus de monde.
Mais
évidemment.
Forcément. Et avec un niveau encore supérieur, grâce à vous.
Alors, quelles sont les nouveautés cette année, alors?
Alors, en termes de nouveautés, il y en a plusieurs. D'abord, nous avons décidé d'avoir des villages. Pourquoi des villages? Alors, en 2022, on avait un petit espace pour faire du job dating. Ça a tellement bien marché qu'on s'est rendu compte qu'il fallait booster et être des acteurs autour de l'emploi. Donc, on a créé déjà un village emploi en partenariat avec Pôle emploi, l'APEC, Numéum, qui est ici. Donc des personnes qui s'engagent pour l'emploi dans la
santé.
Donc
des jeunes qui pourront être, qui seront en contact avec, les entreprises, avec les startups.
Et oui, puisque ces entreprises donc ont posté et proposé des postes, et on va avoir des mails qui vont partir à 50 000 personnes auprès, grâce à Pôle emploi. Nous avons une forte communication sur tous les supports de Pôle emploi et de l'APEC pour que les personnes qui sont soit en mobilité ou réfléchissent à une reconversion professionnelle décident donc de venir découvrir des postes dans ce village emploi. Donc ça, c'est une première transformation. Du coup, en partant des villages, on en a créé d'autres, plus passionnants les uns que les autres. D'abord la prévention, qui est un sujet majeur pour nous. Nous sommes convaincus au sein de Made in Tech, avec les cofondateurs, que la prévention, c'est extrêmement important. On doit passer d'une médecine curative à une médecine préventive. D'autre part, on aura de l'innovation chirurgicale, donc avec Medicène, avec la Sauvecote, etc. Nous allons montrer donc comment on peut opérer en utilisant des techniques formidables et tout à fait novatrices.
Grosse partie cybersécurité.
Une partie cybersécurité, puisque personne ne doit être le maillon faible d'une structure quelle qu'elle soit, et donc on doit être tous vigilants à ce niveau-là. Et on aura tellement d'hôpitaux qui sont également fortement impactés par ce sujet. Nous aurons une partie urgence. Alors les urgences, ça correspond aussi à notre vision. On veut montrer quelles sont les actions autour de l'urgence, et notamment comment nous-mêmes nous pourrons apprendre les gestes qui sauvent. Et enfin, on peut citer également les tiers-lieux d'expérimentation, qui sont ces lieux d'hybridation, d'innovation, qui ont été poussés par un appel à projet du ministère et de la DNS, qui a permis notamment de montrer comment aujourd'hui, quand on innove, on doit avoir autour de la table des médecins. Ceux qui innovent amènent aussi de la tech, et enfin les patients.
Alors justement, à part ces villages qui seront permanents, il va y avoir des conférences qui vont se succéder sur les deux jours.
Très belles conférences, 17 conférences en 2022, 24 en 2023. Et ces 24 conférences que nous allons avoir touchent de différents sujets extrêmement variés. Un sujet qui touche plus comment nous pouvons préserver à titre individuel notre capital santé. Par exemple, on parlera de sport, des JO 2024, de la santé, et d'autres qui toucheront plutôt la transformation des organisations. Il sera question de data. Puis on aura encore d'autres sujets passionnants comme l'emploi, la formation et encore le métaverse en santé. Comment s'applique-t-il
avec des exemples de simulation
et des exemples de simulation que nous pourrons retrouver dans différents endroits du salon, puisque nous avons 200
expos. Une grosse prise de conscience que le patient est au centre de
tout.
De cet écosystème santé, oui.
Oui, donc le citoyen pour lequel on innove aujourd'hui a toute sa place dans cette réflexion autour de la transformation de la santé. Comment nous pouvons, à titre individuel et collectif, nous engager, faire en sorte de préserver notre capital santé et contribuer à cet écosystème florissant.
C'est pas évident que les exposants, les startups soient au contact du public. C'est pas courant.
C'est pas courant.
Ouais. Et combien d'exposants vous aurez ?
Alors, l'année dernière, 120, on est passé déjà à plus de 200.
Ah oui, d'accord.
Une très forte demande. On a encore
murs,
des demandes jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, à 10 jours d'événement, on a encore beaucoup de demandes. Et on pousse les murs. On a effectivement agrandi un petit peu l'espace. Alors, pourquoi ces startups veulent-elles venir ? Ça leur permet de créer des partenariats, de rencontrer des grands groupes, d'enchaîner, de discuter entre elles. Et puis, ça leur permet aussi de tester, de montrer ce qu'elles font auprès du grand public, de voir quelles sont les réactions. Imaginez une start-up comme Apneal qui permet de détecter l'apnée du sommeil, donc de sauver des vies.
Bien sûr.
Grâce à un simple smartphone.
Je suis bien passé pour savoir que c'est un gros facteur de risque cardiovasculaire.
Exactement.
Parfait, en tout cas, Checkup Santé, toute sa bande
sera présente.
Voilà, merci Muriel Obinita. C'est la fin de cette édition, on se retrouve la semaine prochaine.